Bonjour messieurs, qu'est-ce que vous prendrez ?
Deux cafés, merci.
Bonjour François, comment vas-tu aujourd'hui ?
Bonjour Yannick, ça va.
Cette fois, nous avons des cafés, c'est un vrai café rôliste. On n'a pas pris du lait ou des trucs.
Ah mais il n'y a que toi qui prends du lait, moi je prends un café à chaque fois. Hein.
On va essayer de terminer cette chronique sur la mort des personnages. On va préciser, parce qu'effectivement, la mort des personnages, c'est quelque chose d'un peu vaste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment plus de parler de la fin non programmée d'un personnage.
D'accord.
Ouais. C'est-à-dire de l'obligation pour le joueur de changer de personnage. Donc ça peut provenir, par exemple, d'une mise à la retraite forcée, ou effectivement, le plus probablement et le plus souvent, de la mort d'un personnage. Donc c'est vrai que j'ai englobé ça sous la mort d'un personnage, voilà. Mais en fait, on parle plutôt de l'obligation pour le joueur de changer de personnage à un moment donné, ce qui est très souvent la conséquence de la mort de ce personnage-là.
Dans l'appel de Cthulhu, c'est ce qui se passe quand tu perds toute ta santé mentale.
Ouais, exactement. Quand tu perds ta santé mentale dans Cthulhu, quand tu as une mise à la retraite d'office parce que dans d'autres jeux, typiquement là, j'ai lu les 4 de Baker Street il y a quelques jours, un jeu de rôle dont on a parlé sur Radio Rôliste récemment. Effectivement, t'as une possibilité quand tu meurs, un truc intéressant, c'est-à-dire que quand ton personnage, qui est un gamin des rues, va mourir, par exemple, il s'est pris un coup de poignard ou il va tomber de plusieurs mètres de haut, il est sorti du jeu, il est vraiment hors jeu, mais il peut être hors jeu donc définitivement ou pas en fonction de la situation. Là, s'il est destiné à sortir de manière définitive, par exemple il se prend effectivement une balle de pistolet, il peut rien faire d'autre pour l'esquiver, il rate tous ses jets et il finit par mourir, pour des raisons sentimentales, le joueur peut demander au maître de jeu de ne pas tuer son personnage, et dans ce cas-là il est mis à la retraite avec une blessure grave ou avec quelque chose de suffisamment important pour qu'il ne puisse plus revenir dans l'équipe. Donc on est toujours dans le cadre de la sortie d'un personnage, même s'il n'est pas mort définitivement, quand même, on a l'obligation d'en changer à ce moment-là.
Quel serait le terme alors employé ? Tu parles de sortir le perso ?
Une mise à la retraite ou une.
Ouais, ça serait intéressant de trouver un terme qui arrive à paraître générique là-dessus. Mais bon, c'est.
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant.
Ouais.
Donc on voit, alors même dans ce jeu-là, on voit qu'il y a. J'en parlerai à un autre moment ou sur un autre podcast. Sur les 4 de Baker Street, mais enfin on voit que même sur des jeux comme ça qui te donnent la possibilité finalement de sortir ton personnage autrement, ça reste quand même une sanction suite à une perte de ressources, suite à une mauvaise décision, comme on avait dit sur les deux précédents podcasts.
On est sur des jeux où le personnage est un enjeu.
Oui, exactement, le fait de pouvoir continuer le personnage, c'est un enjeu. Tu veux développer ?
Non, je suis en train de réfléchir à ça, mais oui, c'est ça en fait. La mort n'est qu'une façon de le voir, mais c'est dans certains jeux de rôle, parce que ça ne va pas être le cas toujours, dans certains jeux de rôle, la perte du personnage est la perte potentielle du personnage est un enjeu.
Ouais.
Ok.
Alors, c'est un enjeu parce que, on revient sur ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est un enjeu. Important parce que ça permet de donner du frisson, ça permet de se dire si je rate, il y a un risque, et comme on a dit, à vaincre sans péril.
On évite les ennuis.
On évite les emmerdes. Alors, exactement. T'as des différents jeux, donc il y a différents styles de jeux qui vont impliquer des choses différentes. Comme tu l'as dit, si on joue à Cthulhu, par exemple, des troufions de la guerre de 14 qui sont envoyés au front, on sait qu'il va falloir rester discret au maximum. Lors des phases des guerres elles-mêmes, par exemple, tu vas pouvoir perdre ton personnage. Vachement facilement à partir du moment où tu décides d'y aller directement. Donc la fragilité du personnage induit un comportement différent. On sait que si tu joues effectivement du Cthulhu, la moindre mauvaise erreur, la moindre malchance même, le moindre mauvais jet de dé risque d'envoyer ton personnage à la mort, si tu veux. La moindre erreur est sanctionnée immédiatement. Tu vois ce que je veux dire ?
Mmh, ouais.
À l'inverse, si tu joues à Star Wars, tu vas jouer, ou même à Shadowrun, enfin à Star Wars, on va dire, tu joues des héros, tu risques pas de mourir facilement, mais tu peux quand même être neutralisé. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va pouvoir appliquer un certain nombre de problèmes à ton personnage, mais c'est pas pour ça que tu vas être obligé d'en changer facilement. On voit bien que quand tu joues à Star Wars, tu joues un héros, quoi.
À Star Wars, la perte du personnage n'est peut-être pas forcément un enjeu.
Pas
forcément, c'est à la limite, j'ai envie de dire que ça va potentiellement être défini par le meneur de jeu, par sa table. En fonction du style qu'il veut donner à sa campagne. Mais si tu pars du principe que tes personnages sont les héros de l'aventure et que tu veux pas les faire mourir, il faut forcément que les enjeux soient ailleurs. Mais que ça soit la capture, que ça soit ça des emmerdes, la perte de quelque chose auquel ils tiennent.
Oui, par exemple, si je leur fais faire un combat, là on reste dans un truc héroïque, Star Wars, où tu peux pas mourir facilement. Si tu leur fais faire un combat, si à la fin du combat, il n'y a pas la peur de perdre son personnage, est-ce qu'il y a du sens vraiment? Est-ce que c'est vraiment intéressant selon toi?
Est-ce que ça a du sens s'il n'y a pas la peur de perdre son personnage? Si c'est sur des combats, enfin, dans le cadre de Star Wars, sur des combats majeurs, oui, effectivement, c'est bien qu'il y ait ce risque-là. Le tout, c'est que dans un jeu héroïque, comme à la Star Wars, je pense qu'il faudrait faire limite la distinction entre les combats où il y a cet enjeu de mort et ceux où il n'y a pas d'enjeu de mort. C'est-à-dire, ton héros face à une escouade de Stormtroopers, l'enjeu, c'est qu'il se fasse capturer, qu'il soit obligé de fuir, qu'il perde quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une péripétie chiante à gérer, mais pas la mort. Face à des Stormtroopers, à défaut de mort, pour moi, il y aurait de la capture. Qu'ensuite, lorsque tu te retrouves face à ton grand méchant de la campagne, face à un de ces sbires importants, que là, il y a un danger de mort, ça me paraît plus consistant.
Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça voudrait dire qu'en fonction des situations, tu vas avoir un risque et un enjeu différent.
Oui.
Ce à quoi je souscris complètement, le problème c'est que c'est pas dit aussi clairement dans la majorité des jeux de rôle actuels. Et ça c'est super intéressant de dire attention, sur cette scène là voilà ce que vous risquez, tu vois, et dans ce cas là les joueurs vont agir peut-être de manière différente. L'idée pour moi c'est que la perte du personnage induisant, et la fragilité de celui-ci induisant des comportements différents, est-ce que le fait de connaître les enjeux à l'avance lors d'une scène, ça risque pas justement de créer des comportements intéressants?
J'ai pas compris.
Alors,
refais-la moi.
Est-ce que le fait de connaître à l'avance les enjeux d'une scène par les joueurs, est-ce que ça induit pas des comportements justement intéressants et ce qu'on veut obtenir? Par exemple, si on les fait combattre des Stormtroopers et qu'on leur dit dès le départ, que ce soit le système de jeu ou que ce soit le maître de jeu qui leur dise un peu hors champ, vous risquez pas de mourir, mais si vous ratez ce combat-là ou si vous enfuyez pas, vous risquez d'être capturé. Est-ce que ça induit pas des comportements qu'on voudrait avoir par exemple?
Bah si, ça marche bien. Dans le premier Star Wars, quand tu vois Han Solo qui pourchasse du Stormtrooper en beuglant comme un tordu, tu te dis bien ouais, la scène, il sait, enfin le joueur qui est derrière, il sait qu'il a pas de, qu'il risque pas de clamser. Et quand tout d'un coup le maître de jeu lui fait à propos, ils sont pas trois en train de courir, ils sont 30 en train de te viser. Donc là, tu vas te faire capturer. Ah merde, donc je fuis. Mais il y a pas cette scène-là, on n'arrive pas à imaginer un héros d'aventure se faire plomber à ce moment-là, alors que un quart d'heure plus tard, le combat entre Obi-Wan Kenobi et Vador, là c'est un combat qui peut finir par la mort d'un personnage, et le fait qu'il y ait ce petit effet de drapeau de dire attention, c'est là on est en situation de crise, mort possible, ça change effectivement l'attitude des joueurs, parce que si tu leur dis attention, quand vous rencontrez le grand méchant, on est obligatoirement dans des enjeux élevés en fonction de ce que lui veut faire. Ça peut être soit un enjeu où il va vous chercher à vous capturer, mais là si jamais vous faites capturer c'est très très mal pour vous, ou carrément de vous éliminer. À partir du moment où tu sais que chaque fois que tu croises Vador t'as un risque de te faire choper et de finir dans un sale donjon à te faire torturer, ou tout simplement à te faire couper en deux au sabre laser, bah la filoche avec Vador, tu vas pas la fleur au fusil en te faisant ah bah tiens, il est là, je vais y aller.
Alors pour
tu cherches à te préparer à mon
tu cherches date. À te préparer, mais pour ça il y a là ce que tu décris, c'est quelque chose qui est facilement compréhensible en jeu. Il y a à mon avis moi j'appelle ça prévenir la menace en fait. Et il y a deux manières de le faire. Tu as une manière en jeu et une manière hors jeu. La manière en jeu, c'est de dire attention, c'est Dark Vador, si tu te mets en face de lui, il va juste te couper en deux. Ça peut être le boulanger du village qui te dit n'allez pas dans la forêt interdite parce qu'on va tous crever. Ce qui peut, si c'est mal fait, juste
pousser les joueurs,
pousser les joueurs à y aller. Donc il faut faire attention. Donc tu as une manière in-game de prévenir, ça peut être progressif, et tu as une manière out-game. Vas-y, ouais, tu voulais me dire un truc?
Non, mais c'est la manière, à mon avis, le fait d'avoir un peu de technique, ça aide, parce que souvent, en jeu de rôle, les joueurs comprennent plus facilement la technique.
Ouais.
S'il y a une mécanique, qui leur a été expliqué et qui permet de dire, bah, attention, là c'est une situation de crise, donc.
Alors ça existe dans Torg.
Joué une fois à Torg, c'est il y a longtemps, donc.
Je vais t'expliquer. Ça existait dans Torg, ça existe dans certains jeux que je suis en train de faire moi, parce que je trouve ça super intéressant comme mécanique de dire, Vous êtes ce qu'on appelle en mode normal la plupart du temps. Les conséquences de vos actions ne peuvent pas être définitives. Je dis bien définitives. Mmh. Tu peux te casser un bras, tu peux... Voilà. Mais les conséquences elles-mêmes ne sont jamais définitives. Par contre, attention, là dans cette scène-là, spécifiquement, on est en mode dramatique. C'est-à-dire qu'il y a deux types de scènes, mode normal et mode dramatique. Mmh. Cette scène-là, c'est une scène dramatique. C'est-à-dire que ce qui se passe dedans va être déjà plus difficile de base. C'est-à-dire que dans Torque, tu avais des cartes qui étaient plus dangereuses contre les joueurs. T'avais des, tu vois, des effets qui étaient plus dangereux contre les joueurs. Et le fait d'être en mode dramatique induit des conséquences qui peuvent être elles aussi dramatiques et surtout définitives. On entend parler à la mort du personnage, mais ça peut être l'humiliation, ça peut être la mise à la retraite, ça peut être plein de choses. Cette scène dramatique, elle intervenait très souvent à la fin du scénario. Et je tiens à dire que tu avais la même chose dans D6 Star Wars. Enfin, dans Star Wars D6 à l'époque.
Ouais.
Parce que je sais pas si tu te souviens d'un point de règle où tu pouvais dépenser des points de force pour doubler les dés que tu avais à lancer lors d'une certaine situation. Et il était précisé que si c'était fait pour sauver ta vie, pour aider les autres, tu récupérais ton point de force, à la fin de l'aventure. Mais que si c'était fait à un moment dramatiquement approprié, sous-entendu pour sauver la vie de quelqu'un, parce qu'il faut combattre Vador, parce qu'il y a des choses vraiment très importantes, donc il y avait cette espèce de règle qui disait attention, là on est dans un moment dramatique, tu pouvais même en gagner un autre, un point de force. Et à l'époque, dans les points de force, c'était quelque chose de très rare, l'équivalent des points de destin de Warhammer. Donc on voit bien qu'il est possible de prévenir le joueur à outgame en disant attention, on est dans un mode dramatique, et normalement ça va les plonger directement dedans.
Faudrait que je remette le nez dans les règles de Hollywood. Mais il y avait quelque chose, il y avait un truc de genre pour définir le degré de tension des situations.
Ouais.
Une espèce de degré de.
Ah, je
de
me souviens,
menace.
C'était super bien ça, ouais.
C'était très bien, et je me souviens plus exactement. Je suis pas sûr que ça soit pas un peu à côté de ce qu'on a.
Non,
de ce qu'on aborde, mais c'était. Il y avait vraiment ce côté. Le point de règle était fait pour t'empêcher de te la jouer comme un couillon ou surtout de devenir agressif
en fait,
dans certaines situations.
C'était que si t'étais en face du mafieux, du chef de la mafia, tu pouvais pas sortir ton flingue et la battre d'un coup. Avant que la tension soit montée suffisamment haute.
Oui.
Donc c'était un peu le même principe.
Mais c'était une gestion ça, tout au fil de la partie pour dire attention, tant que t'es pas arrivé à un certain degré de boxon, de danger, t'en es pas encore au stade où tu peux te permettre de tirer effectivement sur le gros méchant, même si tu le rencontres.
Ouais. Donc on est dans le mode comment dire. On est le mode d'avertissement des joueurs à outgame, c'est-à-dire qu'on va le prévenir, on lui dit attention. Les règles font que ça va être vachement plus dangereux pour toi. Moi, j'aime bien ce principe-là.
Je trouve que c'est utile parce que ça permet qu'il n'y ait pas d'ambiguïté.
Il n'y a pas d'ambiguïté.
Et que tu ne sois pas obligé finalement d'insister lourdement avec le risque que ça ne va même pas passer parce que les joueurs vont penser que tu es en train de fluffer. Oui, ça fait mettre de faire du fluff, de remplir, de dire ouais, les mecs, ils vous disent c'est super dangereux. Ouais, c'est pour nous dire que ça va être une super scène, on y va.
Mais justement, attention, là, on va parler maintenant du in-game qui est de prévenir par le biais des personnages non joueurs de la dangerosité de quelque chose. Et moi, je trouve, à titre perso, que le in-game marche pas très bien. Alors, j'ai un exemple tout bête. Tu l'as donné tout à l'heure qui est super intéressant, le coup des 30 Stormtroopers. Si tu mets 30 Stormtroopers en face des joueurs, bizarrement, ils vont croire qu'en fait il faut les battre. C'est-à-dire que si tu mets pas un truc outgame qui dit attention, on est en mode dramatique ou attention, vous allez vous faire choper si vous restez, de manière un petit peu brutale, ils vont croire la plupart du temps que l'opposition a été calculée de telle manière qu'ils puissent la battre. Tu vois ? Et moi, en presque 30 ans de maîtrise, même plus d'ailleurs, j'arrive pas à me souvenir d'un seul cas où l'opposition que j'ai mis en face a provoqué la fuite des joueurs. À moins que ce soit un truc démesuré, je leur fous Tiamat en face d'un groupe niveau 1, et encore. Là, ils se disent, c'est pas possible, on va quand même tester, ça doit être une illusion, tu vois. Non, mais c'est vrai. Tu vois, j'arrive pas. Donc, le in-game, normalement, ça devrait induire le roleplay des joueurs.
Je l'avais fait une fois dans une partie, mais c'était pour faire sentir que l'adversaire était vraiment très gros, mais ça restait prenable. C'était vraiment au moment où un combat final s'engageait, contre le gros méchant du scénario, où finalement j'avais un des joueurs qui était en train de charger avec accompagné de quelques PNJ, et juste j'ai tranché, enfin le grand méchant a tranché un des PNJ en deux dès le début du combat. Et j'ai vu le joueur bloqué faire ah oh,
mais là,
ça avait
quoi, un PNJ.
Un PNJ, oui.
Ouais, mais est-ce que ça a la même importance?
Ça avait, dans le contexte où on jouait, ça avait un peu marché parce que j'avais senti. J'ai pas fait fuir le joueur, pas le personnage a pas fui, mais j'ai réussi là, ce coup-ci spécifiquement, j'ai réussi à faire sentir la dangerosité de la scène parce que c'était un contexte où tous les PNJ qui traînaient avec les joueurs étaient relativement nommés. C'était pas un red shirt à la Star Trek, c'était pas un PNJ qui était là juste pour l'occasion, c'était un PNJ qui connaissait depuis quelques scénarios. Et donc le fait juste de le tomber sec net en un coup, ça a été une bonne façon de faire comprendre aux joueurs que
ouais,
la
on
situation
rigole plus,
était
quoi.
Dangereuse.
Alors,
mais c'est pas c'est qu'un cas particulier.
Non, c'est pas un cas particulier, c'est très intéressant parce que ça fait partie de ce que je vais appeler la crédibilité de la menace, en fait. C'est-à-dire que t'as une menace, attention, lui il est méchant. Les joueurs le prennent à la rigolade parce qu'ils ont l'impression que le maître de jeu il est toujours en train de calculer ses rencontres ou de tricher derrière le paravent en disant ça va être facile. Donc il faut arriver à rendre la menace crédible de manière... Alors là on est sur le in-game. Donc ce que tu décris c'est super intéressant, le coup du PNJ. Moi j'avais un exemple similaire dont je t'avais parlé hors enregistrement qui était... Je jouais à Vampire à un Malkavian, donc un vampire fou. On se retrouve en face du prince de la ville qui était François Villon. Et je le prenais à la rigolade, je faisais un peu n'importe quoi, et j'avais une goule avec moi qui était mon chien que j'adorais envoyer parce que je le trouvais sympa, puissant, et puis je m'amusais bien avec lui. Et plutôt que de me faire du mal à mon personnage, le maître de jeu a décidé que le prince attrapait mon chien et le tuait. Et ça m'avait tellement choqué sur l'instant, je me suis dit putain, c'est pas possible qu'il ait fait ça, que j'étais vraiment bluffé. C'est-à-dire que le maître de jeu a rendu sa menace globale crédible. En tapant non pas sur les personnages joueurs, mais sur quelque chose auquel ils tiennent. Donc là, ça peut être toi, tu me parles d'un PNJ. Moi, c'était un PNJ très proche de moi, parce que c'était moi qui l'avais fabriqué, créé, etc. Donc ça me faisait bien mal qu'il se fasse défoncer. Mais ça peut être sur d'autres choses. Ça peut être, par exemple, enfin, d'une manière générale, enlever quelque chose d'important auquel les joueurs croient et auquel les joueurs tiennent. D'autant plus.
Sans que ça soit définitif.
Sans que ça soit définitif pour toi, mais d'autant plus qu'ils pensent que tu vas pas le faire. Donc le coup du PNJ dont tu parles, qui est nommé, auquel les personnages tiennent, qui est là depuis plusieurs parties, le but est vraiment, c'est de te rendre compte à George Martin avec Westeros, là, de dire, ah bon, ce personnage-là, tu croyais qu'il allait rester jusqu'au bout, on va le couper en deux, ça va t'apprendre. Et toi, t'es là et t'as cette impression de choc, de dire, ah putain, merde, c'est réel. Et dans Game of Thrones, on voit bien qu'à chaque fois qu'un personnage meurt, alors bon, maintenant ça fait un peu moins effet de surprise parce qu'ils meurent tous.
La répétition atténue.
Ça atténue l'effet de surprise. Mais la première fois que tu vois, typiquement sans spoiler, Ned Stark, qui se fait tuer assez rapidement dans la première saison, moi je t'avoue que j'étais bluffé. Pour moi, dans ma tête, je le prenais pour le personnage, le héros, si tu veux, qu'elle est restée jusqu'au bout.
Quand j'ai lu les romans,
ouais.
C'est exactement l'impression que ça m'a fait. Et c'est le moment où tu fais, ah tiens. C'est pas tout à fait la littérature à laquelle je m'attendais.
Voilà,
donc ce qui est plutôt agréable. Mais ensuite, effectivement, l'effet de répétition peut. T'es moins surpris.
T'es moins surpris. Et là, on n'est pas sur des PNJ. Là, on voit, c'est des PJ qui meurent au fur et à mesure dans Game of Thrones. Mais bref, donc moi, la technique que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, c'est ça, c'est de menacer in-game, c'est-à-dire de commencer à menacer in-game, de faire monter progressivement l'avertissement et de le rendre réel en enlevant quelque chose d'important. Personnages. Une fois qu'ils en sont là, les personnages, ils ont toutes les clés qui leur permettent de décider s'ils vont plus loin ou pas. C'est-à-dire que on leur dit attention, tel monstre est trop puissant pour vous, on leur montre que tel monstre est trop puissant pour eux. Et s'ils y vont, là ils y vont de manière consciente. Et c'est ça qui est pour moi très important, c'est que là où la mort du personnage est mal acceptée d'une manière générale par les joueurs, c'est quand elle est faite par surprise.
Quand il a l'impression que c'était pas, que ça pouvait pas arriver, que tu l'as trompé sur la marchandise.
Soit que tu l'as trompé, soit que c'est venu par surprise. Genre, tu marches dans la rue, il y a un sniper qui te met une balle. Pof. Là, tu dis, c'est inique, c'est une décision du maître de jeu, ça n'a aucun sens, on aurait dû être prévenu. Alors que si les PNJ avaient dit, attention, vous pouvez pas vous balader dans telle rue parce que c'est bourré de snipers, vous allez vous faire tuer, là, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que s'ils y vont, ils ont le truc en main.
Avec toujours le défaut que si tu dis à les joueurs, attention, si vous allez là-bas, vous allez vous faire tuer. Souvent, c'est « Ah, c'est pour nous dire que le coin est dangereux. Bon, c'est bon, on y va. C'est là que l'action se trouve. »
Et c'est là que tu fais intervenir le PNJ qui y va quand même, le médecin qui se prend une bastos, qui se fait défoncer devant eux. Et là, ils font « Putain, on va peut-être se barrer parce que tu as rendu la menace réelle. » Ce qui n'était pas juste avant. Tu vois. Donc, d'abord prévenir in-game, ensuite prévenir... avec une menace réelle, s'ils continuent et que tu veux vraiment pas ce que tu dis, ils vont se faire tuer vraiment, là tu peux passer en outgame, donc soit en passant en mode dramatique comme on l'a dit avec les règles, soit il y a encore un troisième truc qui est carrément de sortir du personnage. Alors je vais t'expliquer
de mettre le jeu en pause pour prévenir.
Exactement, de mettre le jeu en pause. Alors je vais juste te donner un exemple qui est tiré d'une partie réelle de Shadowrun. J'avais un mage qui était en train de se battre depuis plusieurs tours contre un élémental de sang qui était super balèze lors d'un run quelconque. Ok ? Donc c'était un combat vraiment balèze. Il avait des chances clairement de le battre, mais les dés étaient contre lui, le danger était vraiment réel, enfin il sentait que c'était un petit peu dangereux. Donc il peut se rendre, enfin il peut pas se rendre, pardon, mais il peut éventuellement rompre le combat et s'enfuir. Donc, parce que je donne assez régulièrement la possibilité de s'enfuir au personnage, je préfère toujours qu'il s'enfuit. Pour moi, c'est toujours facile, il n'y a quasiment jamais de jet à faire. C'est déjà suffisamment humiliant comme ça de perdre un combat, t'es pas obligé de la poursuivre et de buter le joueur au dernier moment. Moi, j'étais sorti de mon rôle, en fait, si tu veux, d'arbitre, et j'étais là en tant que conseiller, je lui disais attention, c'était Myst, je lui dis attention Myst, si tu continues le combat, ton personnage risque de mourir. Là, les règles sont ça, ça et ça, il te reste 10 points de vie, le prochain coup, je vais faire 3d6 de dommages, t'as une chance sur deux de mourir. Tu vois, pour donner un exemple réel, voilà, t'as 10 points de vie, le prochain coup que je te mets, et j'ai quand même de grandes chances de te mettre ce coup-là, tu prends 3d6 de dommages, est-ce que tu veux continuer au risque de mourir, ou est-ce que tu préfères t'enfuir? Et lui me dit, mais est-ce que moi j'ai des chances de le tuer? Je lui dis, t'as une petite chance de le tuer, c'est un pari. Est-ce que tu veux le prendre ou pas? J'étais vraiment sorti de mon rôle complètement, quoi. Il a réfléchi, quelques minutes, il m'a dit, non, c'est important, si je le bats, il va se passer ça dans le scénario, et puis pour protéger mes amis qui sont en train de se friter à l'intérieur, c'est mieux que je le combatte. Je lui dis, on est d'accord, si tu rates, t'es mort, si tu réussis, tant mieux pour toi. Il me dit, oui, pas de problème. Il a raté, son personnage est mort. Il se rappelle encore maintenant du combat. Et pour lui, ça reste un excellent souvenir parce que pour le coup, il n'y a eu aucune trahison. Mmh. À aucun moment. Il n'y avait pas de surprise et il n'y avait pas de trahison. Et je pense que c'est super important, lorsqu'on en arrive dans ces situations-là, à ce qu'il n'y ait pas de surprise et ce qu'il n'y ait pas de trahison. Quels que soient les moyens que tu vas mettre en œuvre, in-game, out-game ou carrément en dehors du personnage, le plus important, c'est de prévenir les joueurs de la situation.
Le jeu de rôle, c'est une histoire de choix essentiellement. Donc, tant que tu gères du choix, que tu leur laisses le choix et que les joueurs sont conscients de choisir quelque chose et d'en assumer les conséquences après, c'est très bien. Si tu leur infliges quelque chose qui, dans leur impression, devrait relever d'un choix, alors que tu leur en as pas donné, ben oui, là ça va faire mal.
Ça va faire mal. Mais est-ce que t'as pas l'impression jusqu'à maintenant que ça avait jamais été vraiment dit comme ça? Tu vois, ce concept de choix. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on est surpris.
Quand un personnage meurt?
Pas forcément meurt, mais on n'est jamais vraiment conscient de la dangerosité du truc, tu vois. Je trouve que c'est jamais clair. On est toujours en train d'évoluer dans les parties de jeu de rôle en tant que joueur. Entre ça va être plus ou moins dangereux, ça va être plus ou moins compliqué. Alors que si tu fais des trucs très, très nets, c'est un petit peu différent.
Ça doit pas mal dépendre des tables et des maîtres de jeu. Parce que quand t'es habitué à jouer avec un maître de jeu qui bien méchant, qui de toute façon t'a dit dès le début, de toute façon vos personnages vont risque d'y passer, tu le sais, t'assumes.
Ouais, mais je trouve pas ça hyper confortable, tu vois. Moi en tant que joueur, même si je suis pas joueur très souvent, j'apprécie de savoir dans quoi je m'engage, même si des fois t'apprécies aussi d'avoir de la surprise. Mais de la surprise, pour me dire, tu t'es fait attraper, ça me pose pas de problème. Genre, tu tombes dans un piège, tu te fais attraper par les méchants, ils vont bientôt te manger si t'arrives pas à t'enfuir ou à couper tes liens. Ça j'aime bien, tu vois. Mais le côté, tu tombes dans un piège, il y a des pics qui font 3d6 de dommages et tu meurs. Tu vois, je trouve ça pas super intéressant, quoi.
Ça marche mieux dans les jeux vidéo, de toute façon. Ça marche, tu sais que tu reviens en arrière.
Tu vas pas revenir en arrière. Voilà. Là, c'est un peu, c'est pas juste. Voilà, moi je trouve ça injuste. Alors, je suis en train de... Une dernière petite chose, à mon avis, avant de finir ce podcast, il nous reste quelques minutes. Il y a une chose sur laquelle je tends en ce moment lorsque je crée des jeux, c'est sur un risque qui, non pas côté maître du jeu, c'est-à-dire que c'est pas le maître du jeu qui détermine le risque, c'est le joueur.
Qui choisit
l'ampleur du risque qu'il va prendre. Alors, j'avais un collègue qui m'avait parlé de ça, des drapeaux, alors je les ai réintégrés dans un système. Mais le principe, il est très simple. T'as trois drapeaux. On va dire, t'as un drapeau blanc, t'as un drapeau rouge et t'as un drapeau noir. Ces drapeaux-là, ils indiquent la dangerosité de l'environnement que tu es prêt à accepter. C'est-à-dire que c'est pas le maître de jeu. C'est-à-dire que tu vas être en face d'un dragon multimillénaire ou tu vas être en face d'un kobold. La dangerosité, finalement, ce sera la même. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est un peu bizarre de dire ça, mais tu vas voir, ça va être un petit peu la même.
La difficulté de l'opposition sera différente, mais la dangerosité que tu es prêt à accepter sera
la même.
Va être gérée différemment.
Oui. Ça veut dire que tant que tu es en drapeau blanc, il peut rien t'arriver de grave. Mais toi-même, tu n'es pas très puissant. C'est-à-dire que les risques que tu vas prendre, si tu veux, peuvent pas être élevés parce que tu es en drapeau blanc. Donc tu vas pas prendre de risques. Ça veut dire qu'en face du dragon, tu passeras ton temps à te planquer, tu vas être caché derrière des piliers, tu vas jamais sortir ton arme et en gros, tu auras aucune chance de le tuer parce que il est trop puissant pour toi si tu ne prends pas de risques.
Il faut bien lier ça aussi à une dangerosité minimum pour réussir à atteindre l'objectif. C'est-à-dire face au très grand dragon, il faut que tu puisses dire ok, c'est la scène finale. tu peux te mettre, tu peux être en drapeau blanc ou drapeau rouge, mais
Tu le tueras pas.
Mais tu le tueras pas. Voilà. Tu pourras atteindre un objectif haut, secondaire, mais tu peux pas espérer t'en débarrasser parce que lui, c'est un danger vraiment, c'est
parce
un danger noir.
Parce qu'il a 1000 points. Bah exactement, c'est un danger noir. Il y a la même chose en 13e âge un petit peu. Par exemple, t'as, voilà, il a 1000 points de vie, si t'es en, j'ai n'importe quoi, il a 1000 points de vie, tant que tu seras en drapeau blanc, tu feras jamais plus que 10 points de dommage, donc tu pourras juste jamais le tuer, quoi. Donc, est-ce que t'es prêt à courir le risque, ou est-ce que tu vas t'enfuir? Évidemment, le kobold, c'est pas le même délire, tu vas pas passer en drapeau noir pour tuer un kobold, parce que c'est facile de le tuer même en drapeau blanc. D'accord? Donc, le drapeau blanc, c'est ça, c'est, tu risques rien, mais en même temps, tu fais pas grand chose. Le drapeau rouge, évidemment, c'est un peu plus balèze, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire un petit peu tout, mais le risque que tu prends en cas d'échec de ton action ou en cas de problème, il est plus élevé. C'est-à-dire que tu risques d'avoir quelque chose qui n'est pas définitif, mais qui est handicapant pour un scénario ou plusieurs scénarios. Typiquement, tu te casses un bras ou t'es blessé de telle manière que t'es obligé d'être à l'hôpital jusqu'à la fin du scénario. Donc là, c'est toi qui as décidé, encore une fois, t'es passé en drapeau rouge, t'es plus puissant naturellement, c'est-à-dire que t'as pris plus de risques, tu vas lancer plus de dés, tu vas faire plus de dommages, ce que tu veux. Mais en cas d'échec ou en cas de problème, tu vas prendre beaucoup plus cher. Encore une fois, ce choix, il est exclusivement fait par le joueur, jamais par le maître de jeu. Effectivement, t'as raison, le maître de jeu, lui en face, il met une opposition qui va demander un certain niveau de drapeau ou de risque. Ça, c'est logique. Et le dernier, c'est le drapeau noir. Quand tu décides, tu dis au maître de jeu, voilà, je passe en drapeau noir. T'as toutes les possibilités qui sont débloquées, tu vas pouvoir utiliser tous tes points d'héroïsme, je sais pas, tu vas faire les dommages maximum de ton arme, bah. Mais en cas de problème, en cas d'échec, en cas d'erreur, la conséquence est définitive. Et dans mon idée, tu peux uniquement augmenter les drapeaux lors d'une même scène et tu peux jamais les descendre. C'est-à-dire que si t'es passé en drapeau noir, tu vas pas pouvoir redescendre en drapeau blanc dans la même scène.
Non, c'est bon.
Ah, en fait, je me cache. Non, t'as pris des risques. Donc on voit bien, je trouve, la montée d'héroïsme nécessaire et la prise de risque progressive. Et là, c'est toi qui décides. Effectivement, si dans le combat final, il te reste 2 points de vie, t'es fatigué, t'as perdu toutes tes ressources, t'as plus de points de destin pour te protéger, tu peux tout à fait décider de rester en drapeau blanc. Mais dans ce cas-là, tu vas rater tu vas perdre le combat. Il va rien t'arriver de grave, mais t'auras juste perdu le combat et le scénario. Et je trouve qu'on a une graduation qui est vachement propre et vachement intéressante et qu'on n'avait pas précédemment. On n'avait pas dans d'autres jeux. Qu'est-ce que tu penses de ce mode de fonctionnement ?
J'aime bien. Ça me plaît. Ouais, c'est une méthode qui me plaît. Je serais assez curieux de voir ça en partie. Parce que ça permet de donner un peu de pouvoir. C'est limite, ça donne une sorte d'élément de pouvoir narratif aux joueurs qui vont choisir aussi finalement comment. En plus, individuellement. Chacun pouvant
individuellement,
choisir
ouais.
un drapeau différent. J'aime bien ce côté du ouais, le combat final. Ouais, je vais essayer d'un peu aider, mais non, je me le sens pas. Je sais que même si je me mets en drapeau noir, j'ai aucune chance, donc je vais rester soft, je vais aider mes potes.
Mais il y a un petit côté compétitif. Oui. Avec le premier qui passe en drapeau noir, par exemple, qui va entraîner les autres ou pas. Sauf que si vous réussissez, c'est lui qui va être considéré comme le héros de cette fin de scénario, parce que c'est lui qui aura pris le plus de risques au départ. Parce que ça implique aussi que les spectateurs vont être plus sur lui, et que voilà, c'est lui qui va faire plus de choses, il aura plus de possibilités, quoi. Moi, j'aime bien cette idée-là, que j'ai pas vu souvent, en fait, pas exprimée comme ça.
Il faut effectivement que la récompense que tu vas en tirer, enfin que tu vas tirer d'une scène, dépende aussi du degré de dangerosité auquel tu t'es exposé.
Voilà, de manière assez simple, en termes de game design pur, on a vraiment le côté risk-reward. Et on voit qu'avec, si tu prends peu de risques, t'as un petit, t'as pas de reward ou peu, et si tu prends un gros risque, t'as un gros reward. Et c'est ça que t'as dans les jeux vidéo notamment, et que je voudrais implémenter en jeu de rôle, et que j'ai pas encore beaucoup vu jusqu'à maintenant. Donc on a vu prévenir, éviter la surprise, prévenir in-game, prévenir out-game, prévenir out of character, c'est-à-dire en dehors de son rôle de MJ. Et on a vu ensuite prise de risque déterminée par les joueurs et plus par le MJ, c'est un renversement de la notion de risque.
L'idée est faite.
Voilà. Et ben écoute, si on n'a rien d'autre à ajouter, on en a terminé là.
Bah, c'était pas mal.
Je pense qu'on a fait un...
Ouais, on parlera d'autres choses la prochaine
fois. On va essayer de parler d'autres choses.
Est-ce qu'on pourrait parler de la vie des personnages ?
On pourrait essayer de parler de la vie des personnages, on verra à ce moment-là.
Non.
Écoute, merci beaucoup François et
bonne journée.
À la prochaine.